Interview.
2 jours.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour Erdiwa. Aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir Yannick Barazé, un artiste contemporain habitant le Diwa et qui est venu à la radio parler de la prochaine exposition qu'il va organiser et qui aura lieu à la galerie Espace Liberté à Cré du 20 au 23 décembre 2012. Yannick, bonjour.
Bonjour.
Donc, tu es parti pour une autre exposition parce que je sais que tu en as fait une il y a peu de temps à la médiathèque du Diwa qui s'est bien passée selon tes dires. Tu vas remettre le couvert assez bientôt.
Oui, il y a eu cette expo à la médiathèque de Die, ça s'est bien passé, c'est pas forcément à moi de le dire, mais pour moi, de mon point de vue, oui, c'était bien, il y avait plein de rencontres. Et voilà, j'étais content du travail, les gens de la médiathèque aussi, et apparemment ça s'est plutôt bien passé.
Alors si je ne m'abuse, ce n'est pas du tout la même optique avec laquelle tu vas organiser ta prochaine exposition.
Pas la même optique, disons que c'est pas les mêmes moyens, mais c'est quand même la suite du travail, donc derrière ça, il y a quand même une démarche, je sais où je veux aller, quoi. En art, donc c'est pas les mêmes matériaux. Par exemple, la première, j'avais utilisé des pigments au sol et des suspensions de cônes de bio de frêne. Et là, ça va être juste des bougies posées au sol, donc je vais pas avoir de couleur, ça va être différent. Mais c'est quand même le même esprit.
Avant de parler de ton exposition, est-ce que tu voudrais parler de l'esprit qui sous-jace
L'esprit qui sous-jace. Non, je sais pas trop comment parler. Voilà, en fait c'est ce rire là, l'esprit qui sous-jace, c'est le rire qui vient de fuser à l'instant, c'est ça, ni plus ni moins, voilà. Je sais pas, je pose des actes au fur et à mesure, petit à petit au fil des années, il s'est formé une sorte de langage artistique, je commence à utiliser tel matériau, tels autres, j'ai rencontré telles idées, telles autres, par exemple la géopoétique.
Alors parle-nous de ton exposition.
Alors ça s'appelle Essai de géopoétique élémentaire Indoor Earthcraft. Et donc c'est une installation, moi j'appelle ça installation performance parce que il y a pas vraiment de performance comme on pourrait l'imaginer avec quelqu'un qui performe lui-même sur scène, mais pour moi c'est un acte cette installation là, ça dure que 4 jours. Contrairement à celle que j'avais fait à Die qui était un truc dans la durée sur 4 semaines, là c'est 4 jours, c'est vraiment un événement, ça se passe autour du solstice. Je vais vous la décrire simplement. 2 diagrammes de flammes en relief, l'un formant un creux, l'autre un mont. C'est une installation dans l'espace Liberté à Cré, c'est un assez bel espace qui fait 16 mètres sur 8. C'est une chance pour moi de pouvoir investir un lieu comme ça, avec ces 3 jeux de voûtes comme ça qui suivent, avec comme on en voit dans l'architecture locale, et donc ça suit comme ça sur 16 mètres. Et c'est une ancienne usine de nouilles, voilà pour l'anecdote. Ils font galerie depuis un bout de temps, le lieu a été en dormance pendant 2 ans je crois, puis là ils reprennent les expos et c'est moi qui vais essuyer les plâtres de leur nouvelle insonorisation. Et donc dans cet espace, j'ai commencé déjà à installer 2 diagrammes de bougies en cire d'abeille. Donc là, j'ai essayé vraiment, contrairement à l'expo que j'avais fait à Die, où il y avait plus de matière, plus de moyens, c'est-à-dire j'avais des pigments au sol, j'avais des cônes de frêne en suspension, c'était quand même assez massif, il y avait quand même pas mal de matière. Là, j'ai essayé de limiter au minimum, c'est-à-dire à subtiliser la matière, à la rendre presque transparente, quoi. C'est-à-dire que les seules matières qu'il va y avoir dans l'espace, rien au sol, c'est ces bougies en cire d'abeille. Et alors évidemment, on va me dire c'est pas rien, effectivement la bougie en cire d'abeille c'est effectivement quelque chose de subtilement actif, mais dans l'espace ça se voit pas, parce que selon la lumière, selon les couleurs des murs et de l'architecture, c'est pas ça qui va ressortir en fait. Ça n'est que le support, l'installation vraiment, la sculpture dans l'espace, ça va être le feu, c'est-à-dire quand on va allumer les 210 bougies en même temps, c'est là que va être la sculpture, c'est-à-dire que ça va être une sculpture de flammes, il va y avoir un relief dans l'espace. Ce sont des bougies de différentes tailles, c'est-à-dire ça part de 5 cm à 35 cm, de 5 en 5 comme ça, donc il y a 7 étages de bougies, donc quand on allume tout en même temps, il va y avoir des reliefs. En l'occurrence, c'est vraiment un jeu très très simple, là c'est vraiment basique, on pourrait dessiner avec ce principe-là, comme si on utilisait les hauteurs de flammes comme des pixels, mais là j'en suis pas là, pour l'instant c'est vraiment poser un langage, et comme là, à Die, j'ai expérimenté les pigments, enfin je les avais déjà fait avant, mais j'ai on va dire, approfondi un peu le langage avec les pigments et le bois et les suspensions. Là, c'est un peu nouveau pour moi. J'avais déjà utilisé des bougies, mais voilà, bon, dans d'autres manières et pas comme ça, pas de cette manière-là, pas pour la matière cire d'abeille, par exemple, ou pour cette idée de sculpture de flamme. Ce que je disais, c'est que ça va être très simple. Dans un diagramme, la bougie la plus grande au centre et les plus petites au bord, et dans la seconde avec la petite centre, évidemment, et les plus grandes sur le cercle extérieur. Ce qui fait que quand on alimente tout ensemble, ça va me faire deux reliefs, très simple dans l'espace. Après, ça c'est le moment de l'installation. Alors ça va être sans doute le moment, entre guillemets, le plus spectaculaire, parce que c'est là où toutes les bougies vont être allumées, où l'atmosphère va être au niveau du feu, va être la plus dense. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est la combustion et l'extinction graduelle des bougies au long des 4 jours. En gros, ça dure 70 heures. Hein, je précise ça, c'est que le lieu, la galerie, va être ouverte pendant non-stop pendant tout le long, hein, c'est-à-dire les nuits et jours, pendant du jeudi 20 au moment où on allume, vers 19 heures à peu près le soir. Jusqu'au, je pense, à peu près 70 heures de combustion, donc on arrive à peu près à dimanche après-midi ou dimanche soir. Et donc c'est ce jeu d'extinction graduelle des bougies qui m'intéresse. Petit à petit ça va s'éteindre, donc ça va créer dans l'espace deux mouvements simultanés, centripète, centrifuge dans l'espace. Et donc ça pour moi c'est un rapport au temps. Pour plein de raisons c'est un rapport au temps, c'est comme ça que je l'ai présenté. Comme une réflexion intuitive sur le mouvement perpétuel et expérience de la durée. C'est aussi un thème que j'ai déjà travaillé depuis assez longtemps. J'avais fait un travail, c'était une performance cette fois-là, on peut vraiment dire ça. C'était collective, a dit à l'époque, un travail sur la mosaïque des quatre fleuves. On avait fait tomber des gouttes d'eau à l'occasion des premières semaines de l'écologie, je crois. On était en off. Et voilà, donc il y avait déjà un travail sur le temps pendant 10 jours. On s'était relayé, il y avait des gens du coin et on avait fait un relais de gouttage de gouttes d'eau dans un puits. Enfin, c'est assez simple aussi, mais il y a déjà un travail sur le temps et j'en ai fait un deuxième aussi sur ce thème-là à Espenel en 2009, au temple d'Espenel. Et c'était une installation simple qui s'appelait Relais de mémoire vive. Donc il y avait aussi un travail sur le temps, là c'était la mémoire. Là, c'est un approfondissement dans ce sens-là. Bon, il y a quelque chose de cohérent, bien qu'on n'ait pas du tout avec les mêmes moyens, mais il y a toujours ces mêmes réflexions qui me meuvent. Voilà. Après, dans ce travail sur le temps, c'est une réflexion, il y a une recherche poétique. Donc je cherche à faire quelque chose de beau, pour créer un plaisir du simple point de vue esthétique. Hein. Au-delà du plaisir de beauté que j'attends de cette installation, il y a aussi une intention derrière. Alors après, ça c'est tout, on va dire, l'habillage conceptuel du travail, c'est qu'il y a une intention derrière, c'est que de définir à travers cette perception sensible du temps, c'est de définir ou de trouver plutôt, parce que c'est pas nous qui allons le créer, quoique, de trouver un point central du temps, quelque chose qui soit dans la présence et l'instantanéité, à travers l'expérience de la durée. Et bon, ça c'est une partie de l'étude, de la réflexion ou de la proposition de l'expérience. Et une autre application de cette expérience-là, si elle est effective, c'est une forme de réappropriation d'une temporalité autonome des systèmes calendaires d'inspiration religieuse ou des chaînes de chronologie dénaturées de l'histoire des sociétés humaines. Je viens de me citer le texte. Voilà, c'est-à-dire de se trouver un temps propre, parce que trouver le temps, c'est donner la possibilité créative d'une prise de pouvoir sur la mémoire, comme j'en parlais tout à l'heure, et le devenir du monde, ni plus ni moins. Donc voilà, évidemment, on est à l'échelle d'une installation d'art contemporain, c'est pas une révolution mondiale. Mais voilà, c'est quelque chose qui est dans l'air et qu'à ma manière, je montre, même si j'ai des préoccupations plus par rapport à la beauté que rapport à la politique. Mais bon, dans un acte plastique pour moi, comme celui-là et comme tout ce que je fais, il y a ces notions-là de toute façon. Voilà, à un niveau ou à un autre.
Qu'entends-tu par géopoétique alors ?
La géopoétique, c'est une idée ou un champ d'énergie, selon le regard qu'on pose dessus, qui a été pas découvert, mais qui a été mis au jour comme quelque chose qu'on excave, comme en archéologie, par un Écossais qui s'appelle Kenneth White. Il est poète, essayiste, et il vit en France depuis une cinquantaine d'années. Donc après un certain temps de ce qu'il appelle un nomadisme intellectuel, il a découvert un champ culturel. Enfin, après ça, je me suis approprié cette idée, évidemment. J'en fais ce que j'en veux. Je ne suis pas estampillé par l'Institut. Mais la géopolitique propose un rapport nu à la réalité, un rapport direct au monde. C'est-à-dire qu'il ne passe pas par une lecture ni symbolique, ni imaginaire, ni mythologique sur la réalité. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, par exemple, pour l'imaginaire, on n'a pas besoin d'imaginer des sorcières, des fées, et des lutins et je ne sais quoi pour se représenter les forces de la nature. Ni mythologie, bon, voilà, ni symbolique. Alors là, je sais que c'est assez radical. Je précise que mon travail est d'orientation géopolitique. Je ne revendique pas avoir atteint ce stade-là. En tout cas, je regarde vers cette direction-là, vers cet espace nu et dépouillé. Donc, évidemment, quand on enlève tout ça, symbolique, imaginaire et mythologie, il ne reste pas grand-chose pour se représenter le monde. Eh bien, si, il reste l'essentiel. C'est le corps. C'est-à-dire qu'on se retrouve réduit, mais dans le sens paradoxal d'un élargissement, aux vertus primaires de la réalité physique, c'est-à-dire à toutes les perceptions du corps, le haut, le bas, le chaud, le froid. Le loin, le près, Kenneth White parle de rythme, d'énergie. Donc voilà ce qui reste quand on enlève tout ça. Et il y a une forme de rapport nu, nu à la réalité. On est direct corps à corps avec le monde. Donc c'est ça que j'essaye de faire dans mon travail. Là, en l'occurrence, j'essaie de toucher dans la réalité les fluides, les énergies du corps Terre. On fait ça au solstice, donc pour moi, ça fait partie de la matière première du travail, hein, pour une étude sur le temps. Donc là, à travers le solstice, j'ai essayé d'être en rapport direct avec quelque chose de très concret. Le solstice, un rythme terrestre auquel on est tous assujettis, qu'on le veuille ou non, et sans avoir besoin de symbolisme pour le représenter, on est tous soumis à ces flux d'énergie et on les sent, quoi. Enfin, d'autant plus en habitant dans des régions comme les nôtres.
Est-ce que ce sera filmé, cette combustion ?
Oui, ce sera filmé, mais pour avoir quand même une trace, quoi. Mais c'est pas forcément, j'ai pas tout un dispositif. Je vais mettre une webcam, je vais tout enregistrer, puis après, éventuellement, si j'arrive à en sortir quelques images correctes, j'en ferai un petit clip, quelque chose.
Si tu multiplies la vitesse de combustion par un facteur X, tu pourrais avoir quelque chose d'assez intéressant sur la progression de la combustion et sa décroissance.
Après, je peux faire un découpage, hein, parce que là, effectivement, il y a 7 étages, 70 heures, au compté, ça fait un étage toutes les 10 heures, quoi. Donc, effectivement, pour les gens qui viennent, vous voyez pas, il faut revenir, hein. plusieurs fois pour voir la progression. Mais bon, après, il y a des gens qui peuvent être intéressés seulement par l'allumage, par exemple, qui va être le moment le plus spectaculaire, par exemple.
Qu'est-ce que ça veut dire « indoor earthcraft » ?
Donc pour moi, c'est une appropriation et un détournement que je fais d'une... Là, ça fait partie vraiment de l'arsenal art contemporain. C'est-à-dire que je m'adresse à des gens qui ont éventuellement des références dans le domaine. Ce n'est pas nécessaire pour apprécier le travail en soi, mais bon, moi, j'aime bien m'amuser avec ça aussi. Donc « indoor earthcraft », c'est une appropriation et d'un détournement que je fais d'un terme qui était utilisé par un artiste américain qui s'appelle Robert Smithson dans les années 60. Il faisait des travaux comme ça, c'était un land artiste, hein. Il faisait des travaux en intérieur qu'il appelait des earthworks. Et earthworks en américain, c'est travaux de terrassement, quoi. Donc indoor earthcraft, travaux de terrassement intérieur. Donc moi j'ai transformé ça en earthcraft, alors je le lis comme une sorte d'artisanat tellurique, enfin quelque chose de matière, quoi. Dans ce registre-là, pour bien comprendre le mot avec earth en premier, ben, on imagine handicraft ou witchcraft, ou... voilà, c'est ces mots qui impliquent un artisanat. Alors pour moi c'est la mise en œuvre de différentes matières plus ou moins subtiles. Là par exemple ça va être la géométrie, le calendrier solsticiel, la cire d'abeille et principalement le feu. C'est ce que j'utilise et c'est ça que j'appelle un earthcraft.
Alors tu as quand même dit que tu aimais bien t'amuser avec les concepts d'art contemporain. Est-ce que ton travail peut s'appréhender sans aucune notion d'art contemporain ?
J'espère, bah oui, sinon ça vaut vraiment pas la peine et sinon c'est bon à acheter. Pour moi, l'art contemporain, c'est un alibi en fait, c'est pas une fin en soi, quoi. C'est une concession à l'époque, comme je dis ça, parce que c'est le moyen que j'ai, on va dire, de m'exprimer, celui qui m'est venu naturellement. Il y a que dans des réseaux d'art contemporain ou des gens qui sont intéressés par cette forme de pratique, c'est là que ça passe, quoi. Donc, ok, pourquoi pas, du coup, je me suis intéressé et voilà.
Mais il n'en reste pas moins que le contact avec le vulgum pecus est important, sans aucun bagage intellectuel.
Oui. Oui, j'espère ça. Pour moi, c'est un plus. Pour moi, la qualité première d'une installation, d'une performance, enfin, n'importe quel acte qu'on puisse poser comme ça, c'est un impact tellurique. C'est ça qui est important, d'abord. Après, la communication, qu'on dise que c'est de l'art plastique, ou que c'est de l'art contemporain, ou c'est de l'art conceptuel, formel, informel, ou autre, ou alors même un travail mystique ou poétique, je ne sais quoi, c'est après, quoi. Et tout au bout vient, pour moi... vient, enfin tout au bout, l'avant-dernière place vient la dimension politique du travail, parce que c'est aussi quelque chose de politique, par exemple, de proposer des moments de lenteur maintenant, ou de travailler avec ce genre de matière, c'est déjà une forme de résistance à quelque chose en soi, et un enjeu de pouvoir, donc ça c'est l'enjeu politique, c'est l'avant-dernier, et le tout dernier, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est d'être à la radio, pour moi c'est l'événement médiatique, la communication. Certains le mettraient en premier, moi je le mets en dernier, mais c'est pour ça que j'apprends un peu cet exercice, c'est pas celui où je suis le plus à l'aise. Je rebondis sur ta question de voir si c'était bon pour tout un chacun, même sans ce bagage arty ou art conceptuel ou art contemporain. C'est que oui, le fait que ce soit un événement tellurique, c'est quelque chose qui doit parler à chacun. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui touche à ces rythmes-là qu'on a tous en nous, qui touche à des ressentis. Le temps universel que je cherche là, c'est quelque chose qu'on a tous en commun. Cette instantanéité, cette présence, si on va la creuser un peu, ça s'adresse à chacun. Pour moi, l'idéal, ce qui vaut diplôme, hein, parce que je suis autodidacte complet, ce qui vaut diplôme, c'est quand il y a une personne handicapée ou des enfants qui viennent et qui me disent qu'ils trouvent ça beau ce que j'ai fait et qui, voilà, qui manifeste même parfois de l'émotion, bah pour moi ça c'est ça vaut diplôme. Après, si j'ai l'occasion de parler art contemporain avec quelqu'un qui est branché, bah ça va m'amuser parce que j'aime ça. Voilà.
D'autant que tu parlais de contact nu avec la réalité. Enfin, il n'y a aucun symbolisme, aucune grille de compréhension de ce qui est et ce qui permettrait effectivement à tout un chacun de rentrer en phase avec ce que tu proposes.
Oui. Après, je le répète, cet espace-là, c'est quelque chose auquel j'aspire. Mon travail est d'orientation géopolitique. Il y a un regard, une dynamique vers cet espace-là. Je ne prétends pas que j'en suis au point aujourd'hui où je me suis dépouillé de je ne sais pas combien de millénaires de symbolismes divers et variés. Donc voilà, en tout cas, j'aspire à cet espace-là, oui. C'est une aspiration. Peut-être que ce que j'ai en commun avec les gens de mon époque, c'est peut-être qu'il y a cette aspiration dans l'air aujourd'hui à arriver peut-être à un nouveau rapport à la réalité. Voilà.
Les bougies de cire qui vont brûler pendant une soixante-dizaine d'heures, est-ce que c'est le seul artefact que tu utilises dans cette exposition ?
Non, c'est là-dessus que je centre l'exposition, que je fais venir les gens. Mais je vais avoir d'autres pièces. J'ai une sérigraphie, par exemple, que j'ai sortie ces derniers temps, là, il y a 2 mois, une petite sérigraphie. Et deux vidéos qui vont être en entrée. Alors c'est 2 pièces que j'ai pas eu l'occasion de beaucoup de montrer. Je l'ai montré une fois à Lyon il y a déjà un certain temps, il y a 5 ans au moins. La première et la seconde, elle est sortie cet hiver. Alors la vidéo, c'est aussi un média qui m'intéresse. Je suis pas compétent dans la matière. Je sais pas vraiment travailler la vidéo, mais je fais des choses très simples, comme tout le reste de mon boulot. Là, c'est des plans fixes sur de l'eau. L'un, c'est un reflet de soleil dans l'eau, ralenti carton. Dans la Drôme, là, et l'autre, pareil, c'est un plan fixe. Je me suis baladé cet été au-dessus de Châtillon, là-bas, au-dessus de Minsac, même, au Trou Béranger, pour ceux qui connaissent. Il y avait des touristes, ils venaient de partir, ils avaient fait une. Tu sais, ces petits moulins, là, qu'on fout sur le courant et qui tournent, là, comme les gamins font. Il y en avait un très beau qui avait été fait par un groupe de gens qui venaient de passer. Ah, je l'ai trouvé magnifique, c'était une scène vraiment bucolique, centrée, enfin, il y avait quelque chose de beau. Donc, du coup, je suis revenu le lendemain avec. Il y était encore, et je suis revenu le lendemain avec mon appareil photo numérique, j'ai pris 15 minutes à peu près, donc le plan fixe, le moulin qui tourne, l'eau qui passe, basta. Donc, c'est très centré, il se passe rien apparemment, c'est lent,
Et ça tourne.
Mais ça tourne, oui, ça tourne, il y a du mouvement, c'est la machine, et puis surtout que l'image est belle. Pour moi, ça équivaut à un tableau impressionniste. Enfin, bon, je dis ça avec une certaine humilité, mais par rapport à l'usage qu'on peut en faire, qu'on pouvait faire à l'époque d'un tableau, par exemple, dans un espace, ben, c'est un espace bucolique. Moi, ça me fait du bien de regarder ça, en fait. Je regarde ça, il m'arrive de le regarder. Il y a un petit côté un peu hypnotique, mais ça calme, en fait. Ça passe, et donc, du coup, ça donne une atmosphère d'eau dans la pièce. Surtout que la première vidéo, c'est un reflet de soleil dans l'eau. Donc ralenti carton, donc du coup on a un reflet qui se diffracte, qui se réfracte, on a une sorte de centre insaisissable de lumière comme une étoile qui diffracte en dizaines d'étoiles qui reviennent au centre, et c'est assez, encore une fois c'est tout simple mais c'est assez joli. Donc voilà, il va avoir ça en entrée, et puis sans doute la vitrine va être aménagée.
Peut-être les encourager à venir en particulier à l'allumage des feux.
Oui, c'est vrai que ça va être le moment festif, on pourrait appeler ça un vernissage, n'est-ce pas? Non, moi j'appelle ça une rencontre festive, mais bon... Donc jeudi soir à 19h, c'est là qu'il va y avoir un pain chaud, une soupe, une flûtiste peut-être. Enfin, normalement, elle vient. Et
après, il y a quand même une opération qui prendra du temps, c'est-à-dire allumer 210 bougies, ce n'est pas rien.
Oui, peut-être avec 2-3 personnes. Je demanderai une personne du public, puis à Laure, ma compagne qui va m'aider. Je pense qu'en un quart d'heure, à plusieurs, on allume les 210 bougies. Ça va quand même assez vite si tout est bien préparé. Après, ça va être le moment intéressant, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on va faire quelques essais lumière, mais à partir de ce moment-là, ça va faire vraiment, il va y avoir ces deux cercles de bougies en relief dans l'espace, et dans un bel espace, donc je sais pas. J'imagine seulement ce que ça va être avec tout ce que j'ai pu projeter, mais ce sera la surprise pour tout le monde, et pour moi y compris.
Est-ce que tu pourrais rappeler les coordonnées de cette galerie ?
Oui, c'est le 5 rue des Alpes. Ça se trouve assez facilement à Créa, c'est vers le centre... Il y a la rue Archinard, je crois, tout au bout de la rue Archinard. Ça, c'est le premier soir. Puis le second soir, on fait une projection vidéo, un film de Richard Lang. Encore une sorte de rencontre, mais alors là, plus simple, c'est une discussion sur le Land Art un peu, ou ce genre de travail. Voilà, donc c'est une vidéo sur Richard Lang, un film de Philippe Haas, qui dure 38 minutes, il va être en VO. Et c'est Stones and Fleas, Richard Lang in the Sahara. Et il est déjà passé à la médiathèque de Die, il y a un peu plus d'un an. C'était un film qui était assez beau, et je me suis dit que c'était pas... discordant avec mon travail, au contraire. Je profite aussi de cette exposition pour présenter un concept de jeu sur lequel je travaille depuis un certain temps, que je travaille à essayer de diffuser. Donc là, on n'est pas loin de sortir une première série de jeux. Du coup, je vais le présenter quoi, dans une des alcôves, parce que dans l'espace de la galerie, il y a quelques alcôves. Donc je vais présenter le jeu, il sera là. Donc je propose le samedi après-midi vers 16h, mais là, ce sera sur inscription, de présenter le jeu. Quoi. Il faudrait qu'il... Je ne peux pas travailler avec plus d'une douzaine de personnes. Alors s'il y a 12 personnes, je serai content. S'il y en a plus, il faudra que je fasse une autre session et on verra sur place. Voilà, dans ce cas-là, il faut s'inscrire en fait à l'espace.
As-tu un numéro de téléphone pour pouvoir s'inscrire ?
Oui, vous pouvez téléphoner chez moi.
C'est-à-dire ?
0475 21 08 37.
Yannick, merci d'être passé à la radio pour parler de cette future exposition qui aura lieu, je le rappelle, du 20 au 23. Vous êtes tous les bienvenus de descendre à Créa pour cette exposition qui sera ouverte non-stop à partir de jeudi 20 à 19h jusqu'à l'extinction des bougies prévue le dimanche 23 dans la journée. Au revoir Yannick.
Oui, salut. Salut à tous.
Interview. Air View.
Okay, the bird.